La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Vincent Lemire, qui est professeur en histoire à l'Université Paris-Est Gustave Eiffel, et vous avez dirigé le Centre de recherche français à Jérusalem pendant un certain nombre d'années, et actuellement, vous animez le projet de recherche européenne qui s'appelle Open Jérusalem. Vous avez fait de nombreux livres. Il y en a un très intéressant qui s'appelle Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem. Vous avez fait une bande dessinée aussi, Histoire de Jérusalem, aux éditions Les Arènes. Et pas longtemps, vous avez fait un podcast sur France Culture. France Inter, qui s'appelle Anatomie d'un conflit, c'est sorti aussi en livre aux éditions des Arènes. Eh bien, Vincent Lemire, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va faire donc on va essayer de faire un petit bilan, même si ce n'est pas fini, parce que même tout récemment, il y a encore des frappes sur Rafah avec un nombre épouvantable de victimes. C'est toujours pas fini ce conflit qui ne dure que trop. Et on va voir un peu, faire un peu d'histoire et sur un peu toute l'histoire de ce conflit israélo-palestinien qui se rejoue actuellement en accéléré. Voilà, et donc il y a plusieurs phases. Hein. En gros, on peut dire que là, on est au cinquième acte du conflit. Et donc, on va un peu dénouer le fil de ces actes. Et on va commencer par la genèse des projets nationaux concurrents entre donc un projet d'établissement international juif en Palestine et, d'autre part, un projet concurrent qui serait un État palestinien arabe sur les ruines de l'Empire ottoman. Ça, c'est la période 1897 jusqu'à, en gros, hein, 1947. Et il y aura, bon, des petits conflits qui vont arriver, mais on n'est pas encore au gros conflit. Donc on va quand même un peu... C'est bien de s'arrêter quand même sur les origines, quand même, d'où ça vient tout ça. Donc si vous pouvez faire un petit résumé pour nos auditeurs et nos auditrices.
Oui, je crois qu'en fait, on a besoin d'histoire, on a besoin de rappeler les origines de ce conflit, parce qu'on est tous complètement suffoqués, complètement sidérés, en fait, par l'actualité tragique. Vous l'avez rappelé, y compris il y a moins de 24 heures, hein, cette frappe sur Rafah qui tue plusieurs dizaines de femmes et d'enfants dans une zone de refuge. Donc, en fait, tous les jours, voilà, on entend des choses absolument terribles. Et on a du mal finalement à remettre tout ça en perspective. Donc, ce qu'on a essayé de faire dans ce petit bouquin tiré du podcast Israël-Palestine, anatomie d'un conflit, bah, c'est effectivement rappeler qu'on est peut-être effectivement au cinquième acte, hein, de ce conflit séculaire. Le premier acte, bah, c'est la genèse effectivement des projets nationaux concurrents. En fait, c'est un chapitre, j'allais dire, d'histoire culturelle et idéologique assez classique, hein. On est à la fin du 19e siècle et chaque peuple, chaque communauté nationale cherche à se constituer en État. Pas seulement les Palestiniens, les Israéliens, hein, mais on voit ça un peu partout en Europe centrale, dans toutes les régions du monde, en fait. Donc il faut d'abord dire que voilà, cette fin du 19e siècle, c'est ce moment-là, la genèse de deux projets nationaux concurrents sur un même territoire, qui s'appelle à l'époque la Palestine. On est dans un contexte impérial, hein, on est dans le cadre de l'Empire ottoman. Ça fait beaucoup penser aussi à ce qui se passe justement en Europe centrale au même moment, où on a l'Empire austro-hongrois, mais sous la tutelle impériale de l'Autriche-Hongrie, on a des populations, on a des communautés ethniques et linguistiques qui revendiquent en fait un État autonome. Alors, ces deux projets nationaux concurrents. Ben, d'un côté, c'est le projet palestinien, dont les frontières sont pas toujours très bien définies, hein. Il y a une formule à l'époque, hein, qu'on appelle chez les nationalistes arabes et palestiniens, qu'on appelle la Grande Syrie. La Grande Syrie, comme son nom l'indique, hein, pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent bien, voilà, c'est forcément un territoire qui est a priori plus vaste que la Palestine actuelle. Voilà, les nationalistes arabes de Palestine, à la fin du 19e siècle, ils hésitent en fait entre une autonomie palestinienne et un ensemble panarabe plus large. Et ça va durer très très longtemps. C'est important d'en parler parce que ça va durer, on va dire, jusqu'aux années 1970, où là, pour le coup, les Palestiniens, et en particulier sous l'instigation d'Arafat et de l'OLP, bah, vont décider de ce qu'on appelle de repalestiniser leur lutte, hein, et d'arrêter un peu d'essayer d'arrêter de compter sur les États arabes voisins et de ne compter plus que sur eux-mêmes. Donc ça c'est le projet nationaliste palestinien. Et puis en face, il y a un autre projet qui est le projet sioniste. Alors c'est un projet qui a des racines très très profondes, hein, et pas seulement des racines au sein des communautés juives d'ailleurs, hein, les chrétiens, dans le monde chrétien évangéliste anglo-saxon en particulier, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, il y a tout un courant, hein, qui plaide en fait pour ce qu'on appelle une restauration nationale juive en Terre Sainte, un rassemblement en fait des juifs de diaspora en Terre Sainte. Vous voyez pourquoi c'est intéressant de faire de l'histoire? Parce que ça permet de comprendre ces racines évangéliques et ces racines chrétiennes du projet sioniste. Elles permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui c'est la droite trumpiste évangélique américaine, chrétienne, pas du tout juive, hein, américaine, aux États-Unis, qui soutient avec le plus de virulence le gouvernement israélien actuel. Donc, bon, ce projet sioniste, il va petit à petit être repris en charge, pour le coup, par des acteurs juifs, et en particulier en Europe centrale et en Russie. Pourquoi? Ben parce que ces régions sont touchées par un antisémitisme extrêmement virulent, avec des pogroms très violents, avec des morts civiles juifs dans ces communautés d'Europe centrale et de Russie. Et donc se développe en fait l'idée selon laquelle, ben, les juifs ne pourront pas être en sécurité en diaspora et qu'il leur faut un refuge sûr, alors en Palestine ou ailleurs. Et ça, c'est important. Voilà aussi pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui, hein, c'est que dans les premiers temps, y compris dans les premiers congrès sionistes, hein, le premier congrès sioniste, il est inauguré à Bâle, en Suisse, en août 1897. C'est pas si ancien que ça, hein, ça a 130 ans. Et pendant quelques années, on va débattre en fait entre ceux qu'on appelle les territorialistes. Alors, les territorialistes, en fait, ils plaident pour un État-nation autonome n'importe où. Ça peut être en Ouganda, ça peut être en Argentine, ça peut être dans l'Extrême-Orient, l'Empire russe, pourvu que ce soit un État autonome et indépendant où les Juifs puissent être en sécurité. Donc ça, c'est les territorialistes. Et puis, au sein du mouvement sioniste, il y a ceux qu'on appelle les Palestiniens. Alors, vous voyez, c'est un peu paradoxal, hein, aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'ils s'appelaient eux-mêmes. Ils s'appelaient les Palestiniens parce que c'est ceux qui plaidaient pour un projet sioniste en Palestine, sur le territoire palestinien, parce qu'ils considèrent que voilà, ça aura évidemment beaucoup plus d'impact auprès de l'opinion publique juive et auprès des diasporas. Donc voilà, ça c'est la fin du 19e. On peut dire que ce premier chapitre, hein, du conflit, c'est un conflit seulement idéologique et culturel, hein. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, il y a une structuration de deux projets différents. Il y a des gens qui s'écrivent, qui se contestent, qui se répondent dans la presse internationale, dans la presse locale aussi, petit à petit, en Égypte, en Palestine, au Liban. Voilà, il y a des intellectuels juifs et des intellectuels arabes qui débattent de ça. Alors, ils sont pas, d'ailleurs, tous les juifs ne sont pas forcément pour le projet sioniste, hein. Il y a personnage que j'ai beaucoup étudié qui s'appelle Albert Entebbe, qui est très très important à Jérusalem. Lui, il se considère comme antisioniste. Puis à l'inverse, il y a aussi des intellectuels, des nationalistes arabes palestiniens, mais qui ne sont pas pour une Palestine autonome, qui sont plutôt pour la Grande Syrie. Voilà, donc on est dans ce moment de un peu d'ébullition, d'émulation intellectuelle et idéologique, fin du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis voilà, il faut passer au deuxième chapitre. Il faut passer au chapitre 2. Le chapitre 2, on pourrait dire, c'est 1917-1947. On pourrait dire que c'est le temps des premiers affrontements sporadiques sous tutelle internationale. Pourquoi sous tutelle internationale? Parce que l'Empire ottoman a choisi l'alliance avec l'Allemagne au moment de la Première Guerre mondiale. Donc l'Empire ottoman est défait, comme l'Empire austro-hongrois d'ailleurs au même moment, hein. Ça peut être utile pour les gens qui nous écoutent, en fait, de faire des parallèles comme ça entre des situations peut-être qu'ils connaissent mieux, d'autres connaissent moins bien. Ces deux grands empires, l'Empire austro-hongrois en Europe centrale et puis l'Empire ottoman au Moyen-Orient, s'effondrent en fait à la fin de la Première Guerre mondiale parce qu'ils étaient alliés avec l'Allemagne. Et à la place, la communauté internationale édicte une nouvelle règle commune qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et voilà, chaque peuple, chaque nation, chaque communauté ethnique et linguistique a droit à son propre État. C'est le temps des États-nations qui doit succéder au temps des empires. Alors, il y a des territoires, il y a des régions où ces États-nations se mettent en place directement. Et puis, il y a des territoires où la communauté internationale, qui est incarnée à l'époque par la SDN, hein, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, il y a des territoires où cette SDN considère que, de façon d'ailleurs un peu coloniale, hein, que les populations ne sont pas prêtes, en fait, à s'auto-émanciper et à s'auto-gouverner. Et donc, elles doivent être placées sous tutelle, hein, c'est vraiment une tutelle juridique, sous tutelle d'une puissance occidentale, évidemment. Donc, ça va être le cas en particulier au Proche-Orient, avec un mandat confié par la Société des Nations à la France, au nord du Proche-Orient, on va dire sur le territoire Liban-Syrie actuel, et puis un mandat confié à la Grande-Bretagne, dans la partie sud du Proche-Orient, donc on va dire sur les territoires actuels d'Israël, Palestine, Jordanie, Irak. Hein. Un mandat, ça veut dire quoi? C'est comme un, je sais pas, c'est comme, comme dans une assemblée de copropriété. Un mandat, hein, ça veut dire que la Société des Nations, la communauté internationale, donne mandat à chacune de ces deux puissances pour permettre l'éclosion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, ce n'est pas trop compliqué au Nord, hein, les Français vont finir par céder assez vite, hein, dans les années 40, hein, ils vont accéder aux demandes d'indépendance du Liban et de la Syrie. C'est beaucoup plus compliqué en Palestine, évidemment, parce que, en fait, les Anglais doivent faire face à, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, doivent faire face à deux revendications parfaitement contradictoires. Il y a deux projets nationaux concurrents sur un même territoire, le projet palestinien et le projet sioniste. Alors, il est évident que se pose tout de suite la question de l'impartialité ou au contraire de la partialité de la communauté internationale. Et c'est important d'en parler maintenant parce que on voit bien que pourquoi est-ce que ce conflit est tellement centrale dans les instances internationales, à l'ONU, Cour internationale de justice, Cour pénale internationale. Enfin, vous voyez, mais parfois, peut-être les gens qui nous écoutent se disent « mais c'est bizarre, pourquoi on parle beaucoup plus du conflit israélo-palestinien que je sais pas, que des Ouïghours ou du Soudan ou... ?» Et c'est vrai. Et c'est parfois, et c'est peut-être d'une certaine manière assez injuste, hein, quand on perçoit ce décalage. Il y a une explication simple, hein, c'est que ce conflit, il a été généré est paramétré dès son origine par la communauté internationale. Donc elle a une responsabilité toute particulière à trouver une solution. Donc voilà, ce chapitre 2, c'est celui-là. Les premiers, donc vous voyez, chapitre 1, c'était un affrontement idéologique, on va dire. Mais là, dans le chapitre 2, 1917-1947, on arrive aux premiers affrontements physiques. Alors, ce n'est pas du tout du niveau de violence et de mortalité auquel on assiste aujourd'hui, hein, mais quand même, on a en 1920, par exemple, les premières émeutes anti-sionistes à Jérusalem, qui font plusieurs morts. 1929, là, ce qu'on a appelé les émeutes du mur, parce qu'elles sont déclenchées à Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, devant le mur occidental. Et puis c'est des émeutes ensuite en août 1929, qui vont se diffuser dans tout le territoire palestinien et qui font pratiquement 300 morts. voyez, on arrive à ce genre de chiffres. Parmi la population palestinienne, parmi la population juive de Palestine, ça c'est 1929. Et puis on a dans les années 1930, à la fin des années 30, 1936-1939, ce que les Palestiniens appellent leur première intifada. Alors vous voyez, aussi un intérêt de faire de l'histoire. Pour nous, la première intifada, c'est celle de 1987, hein, vue d'Occident. Mais non, vue de Palestine, la première intifada en arabe, ça veut dire le soulèvement. Le premier soulèvement palestinien, c'est celui de 1936-1939, qui est à la fois un soulèvement civil et un soulèvement armé, que les Britanniques vont réprimer très durement. Et puis, ce qui est important, c'est que, au-delà des Britanniques, ben, il y a aussi des milices d'autodéfense juives qui se structurent, qui se mettent en place, qui vont s'armer de plus en plus violemment, et qui vont être en fait la colonne vertébrale de la future armée israélienne. Donc on voit en fait au moment où va démarrer la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale c'est plutôt un moment d'apaisement en Palestine. C'est assez contre-intuitif peut-être, mais on va dire peut-être que les affrontements se situent ailleurs. Au moment où démarre la Seconde Guerre mondiale, en fait, tous les ingrédients, hein, vous l'avez bien dit, hein, tous les ingrédients de ce qui va faire le conflit israélo-palestinien au sens strict, hein, celui qui démarre en 1947, sont en place. Et donc voilà, ces deux, mais vous voyez, ces deux premiers chapitres, la genèse idéologique de deux projets nationaux concurrents, fin du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, et puis le chapitre 2, des affrontements sporadiques sous tutelle internationale, on va dire de 1917 à 1947, ils sont très importants en fait pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et puis on va arriver à 1947, et voilà, c'est là, je vous redonne la parole si vous avez des questions particulières sur ce troisième chapitre.
On a beaucoup de questions, mais on va peut-être faire une pause parce qu'on a tellement de questions qu'il faut laisser souffler les auditeurs et vous aussi. On va faire la première pause.
Born and raised down here in the ghetto,
vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. On vient d'écouter le groupe The Royals et le titre du morceau c'était Hungan. On continue notre entretien avec Vincent Lemire et donc on s'intéresse donc à cette histoire du conflit israélo-palestinien qui se rejoue actuellement donc en accéléré. Et donc on est arrivé un peu à cette date charnière de 1947, qui va être un peu le moment où il y aura la communauté internationale qui va donc proposer un plan de partage de la terre, donc de territoire donc de Palestine en deux parties, hein, partie donc avec une partie pour les populations arabes et une partie pour la population juive. Donc il faut savoir que donc en 1947, c'est 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec la Seconde Guerre mondiale, bon, on sait ce qui s'est passé pour la population juive d'Europe avec la Shoah, hein, qui est donc un traumatisme. Bon, donc voilà, ça joue pas mal aussi dans cette histoire. Et donc Barsi, donc par rapport à ce plan donc de partage de la terre, donc il va se heurter à un refus, peut-être même à plusieurs refus, mais en tout cas voilà, il y aura des refus et ça va entraîner des conflits. Et voilà, ça entraînait des conflits. Donc, le premier grand conflit, c'est donc ce qu'on appelle la guerre de 1948, mais bon, qui commence un peu fin 47 et qui dure jusqu'à 1948. Mais c'est un moment aussi, quelque part, on peut dire que c'est le premier conflit historiographique entre les deux points de vue, entre le point de vue palestinien, le point de vue israélien, voilà, avec des discours, des récits concurrents. Et c'est un peu de là que va naître un peu tout, voilà, la complexité de l'histoire et les discours d'affrontement plutôt que de négociation. Donc voilà, si vous pourriez un peu développer pour nos auditeurs par rapport à cette histoire-là.
Alors, effectivement, on arrive au troisième chapitre, hein, de cette tragédie, au troisième acte, hein, pourrait-on dire, 1947. Alors, 1947, en fait, c'est le moment où la Grande-Bretagne décide de rendre son tablier, hein, de rendre son mandat à la communauté internationale. Elle n'arrive pas à trouver de solution. Elle n'arrive pas, en fait, à sortir des contradictions entre les promesses qu'elle a faites d'un côté aux organisations sionistes et de l'autre aux nationalistes arabes palestiniens. Et donc, la Grande-Bretagne annonce unilatéralement qu'elle va quitter le territoire palestinien, que l'armée britannique va sortir du territoire, précisément le 15 mai 1948, la date est prévue à l'avance. Et donc, la Grande-Bretagne dit à la nouvelle organisation des Nations Unies, à l'ONU, il faut que c'est à vous de trouver une solution. Et alors là, encore une fois, l'intérêt de faire de l'histoire, vous voyez, pour comprendre mieux le présent. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup dans les débats actuels, on parle beaucoup soit d'une solution à deux États, un État palestinien et un État israélien de l'autre, ou bien de ce qu'on appelle la solution à un État ou un État binational. Et parfois, on a un peu l'impression que cette solution à un État, la solution de l'État binational, elle est toute récente, en fait. Ce serait vraiment quelque chose une invention récente et qui permettrait de sortir peut-être des plus anciennes contradictions. Mais en fait, pas du tout. Cette solution d'un État unique, d'un État binational, elle a été déjà envisagée par la communauté internationale et à très haut niveau. En 1947, en fait, il y a une commission de l'ONU, une commission spéciale de l'ONU sur la question palestinienne, l'UNSCOP, qui se réunit et qui est précisément chargée de proposer des solutions à la toute nouvelle Assemblée générale de l'ONU. Cette commission, en juillet 1947, elle se rend en Palestine, elle se rend sur le terrain, elle rencontre les acteurs, etc. Et en fait, elle produit deux options. Et non pas une, comme on le croit souvent. On parle toujours du plan de partage de 1947. En fait, il y a deux plans de partage, d'ailleurs. Celui de septembre 1947 et celui de novembre, mais rentrons pas dans ces détails-là. On parle toujours du plan de partage, soumis par l'ONU en 1947. Mais en fait, l'UNSCOP avait aussi proposé une deuxième option, qui était un État binational. Un État fédéral binational, unique, dans lequel auraient vécu les Arabes, de Palestine, et puis les Juifs de Palestine. Et cette option, elle ne va pas être mise au vote de l'Assemblée générale. La seule option qui est mise au vote, c'est celle de la partition, plan de partage entre deux États. Alors c'est vrai que les organisations sionistes, elles sont plutôt favorables à l'option de la partition. Pourquoi ? Parce que, d'abord parce que sur tout le territoire de la Palestine, du mandat britannique, il y a à peu près 30% de résidents juifs et 70% de résidents arabes. Donc on comprend bien que pour les sionistes, ils savent bien qu'un État binational, dans un État binational, il serait minoritaire. Et puis si on regarde au niveau de la propriété de la terre, la propriété foncière, bah c'est encore pire. Hein, moins de 10% des propriétés foncières en Palestine, en fait, sont possédées par soit des organisations juives collectivement, soit par des propriétaires privés juifs. Et donc, voilà, moins de 10% de la terre. Donc, pareil, un État binational serait, ce serait au détriment, en fait, hein, du projet sioniste. Et donc, on comprend bien, alors, seul le plan de partition est mis au vote, et il est accepté par l'Assemblée générale des Nations unies. Hein, il est voté à la majorité requise de l'Assemblée générale des Nations unies. Et là, effectivement, vous l'avez dit, ben, les sionistes acceptent le plan et les Palestiniens le refusent. Alors là, c'est pareil. Aujourd'hui, beaucoup de. Alors, ce plan, il prévoit que 55% du territoire de toute la Palestine va revenir à l'État juif de Palestine, futur État d'Israël, et 45% du territoire va revenir à l'État arabe de Palestine, ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Alors aujourd'hui, on peut se dire, mais comment, mais pourquoi est-ce que les Palestiniens ont refusé? Aujourd'hui, la Cisjordanie et Gaza, ça représente 22%, 23% de tout ce territoire dont on parle. Et les Palestiniens, même l'OLP, l'autorité palestinienne, même une partie du Hamas aujourd'hui se bat pour essayer de récupérer ces 22-23%. Donc on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté en 47 45%? Ben oui, mais c'est à ça que servent aussi les historiens. C'est à rappeler que les acteurs de l'histoire connaissent pas la suite, en fait. Ils font des paris, en fait, sur l'avenir. De même qu'aujourd'hui, les dirigeants israéliens, les dirigeants palestiniens font des paris sur l'avenir. Puis parfois c'est des paris réussis, parfois c'est des paris ratés, quoi. Les Palestiniens, je l'ai dit tout à l'heure, ils représentent, en 47, hein, au moment où on leur demande d'accepter ce plan de partage, ils sont 70% de la population et ils possèdent 85-90% des terres. Et on leur dit, signez-la, vous allez avoir 45% du territoire. Aucune entité politique ne peut accepter ça, même vis-à-vis de leur opinion publique, ce n'est pas possible. Et tout le monde savait bien que les nationalistes arabes allaient refuser. À l'inverse, il est logique que les organisations sionistes acceptent. Je l'ai dit tout à l'heure, au moment du plan de partage, il y a 30% de résidents juifs en Palestine et ils ont moins de 10% des terres. Et on leur dit, signez-la, vous aurez 55% du territoire. Mais c'est un gain énorme. Donc il n'y a aucune hésitation pour eux. Donc voyez, l'intérêt très. Là, je pense que tous les gens qui nous écoutent, il n'y a pas besoin de faire des grandes études d'histoire pour comprendre ça. Si on se remet à chaque fois dans le contemporain, dans le contexte de l'époque, on comprend les décisions. Donc, les sionistes, les organisations sionistes acceptent. Les nationalistes arabes et les États arabes voisins refusent. C'est la première guerre israélo-arabe. Vous avez raison, elle commence dès 1947. Hein, il y a une espèce de guerre civile, en fait. Puis ensuite, le 15 mai 1948, les Britanniques s'en vont, comme ils l'avaient annoncé. À l'heure pile où ils l'avaient annoncé, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Et quelques heures après, les affrontements armés commencent. Et cette première guerre israélo-arabe, elle va tourner à l'avantage d'Israël. Tant et si bien que, alors que le plan de partage prévoyait d'accorder 55% de toute la Palestine mandataire à l'État juif de Palestine, 55%, à l'issue de la guerre, la ligne de cessez-le-feu, qui est fixée en 1949, à la fin de l'année 1949, finalement, accorde de facto 78% du territoire pour l'État d'Israël, qui d'ailleurs va être reconnu ensuite par les États-Unis, par l'Union soviétique, par la France, par la plupart des États de la planète. Donc vous voyez, un gain énorme. Et finalement, la Palestine, hein, la Palestine arabe, finalement, ne subsiste. que sur 22-23% de l'ancien territoire. Donc, vous voyez, on est au troisième acte, hein, de cette tragédie. Et en même temps, par exemple, on peut citer un chiffre qui est très très étonnant. C'est la première guerre israélo-arabe. Vous vous rendez compte? Elle dure pendant plusieurs mois. Ben, le bilan humain de cette guerre, c'est sans doute un peu plus de 5 000 morts palestiniens, combattants, hein, et combattants et civils, et un peu plus de 5 000 morts pour les armées arabes voisines. 10 000 morts en tout pendant plusieurs mois, alors que c'est une guerre. Vous vous rendez compte par rapport à ce qu'on est en train de vivre à Gaza en quelques mois avec seulement essentiellement des populations civiles. Donc voilà, ça c'est la première guerre israélo-arabe. Et puis elle va être suivie par d'autres guerres israélo-arabes, celle de 1956, hein, ce qu'on appelle la guerre de Suez, où là c'est Israël et la France, hein, qui attaquent l'Égypte suite à la nationalisation du canal de Suez par le président Nasser. Ça a été un échec. Enfin, c'est une victoire militaire, mais c'est un échec politique et diplomatique de la France et d'Israël. À cette occasion-là, d'ailleurs, l'armée israélienne rentre aussi dans Gaza. Hein, peut-être pour les gens qui nous écoutent, certains ont lu une splendide bande dessinée reportage de Joe Sacco, qui s'appelle Gaza, et qui raconte en fait cette opération antiterroriste de l'armée israélienne à Gaza, qui dure 6 mois en 1956. Vous voyez, une opération antiterroriste à Gaza qui dure 6 mois, ça vous fait peut-être penser à quelque chose. Ça vous fait penser, ça nous fait penser à ce qui arrive actuellement à Gaza. Ben, l'opération antiterroriste de 1956, elle fait 1 000 morts en 6 mois. Hein, vous voyez, là aussi, ça aussi, ça permet, vous voyez, comme l'histoire permet de comprendre le point auquel ce qui arrive actuellement est absolument sans précédent. Donc ça, c'est la guerre de 56. Et puis ensuite, il y a la guerre de 1967, la guerre des 6 jours. Donc c'est pour ça qu'on parle pour ce chapitre 3, pour ce troisième acte, on parle de conflit israélo-arabe. Vous voyez? Pas de conflit israélo-palestinien, en fait. Pourquoi on dit ça? Mais parce qu'en fait, ce sont des guerres conventionnelles entre États, entre des armées et entre des États. Des États souverains, d'une certaine manière. Et ce sont des guerres conventionnelles. Guerres conventionnelles, c'est-à-dire, voilà, ce n'est pas des actions terroristes, ce n'est pas des actions de contre-insurrection de l'autre côté. C'est bien des guerres qui sont démarrées. Il y a des déclarations de guerre, ensuite il y a des cessez-le-feu. La plupart des victimes sont des victimes militaires, puisque ce sont des guerres conventionnelles. Ça dure très peu de temps à chaque fois. La fameuse guerre des 6 jours, hein. 6 jours. Elle démarre le lundi, elle se termine le samedi à 19h. Mais c'est des. Donc c'est pour ça qu'on parle du conflit israélo-arabe, hein, des guerres conventionnelles entre États. Et ça se termine effectivement par cette guerre des 6 jours, qui pour le coup est déclenchée par Israël. C'est ce qu'on appelle une guerre préventive. Hein, les Israéliens attaquent, en fait, par surprise, les Égyptiens, parce qu'ils craignent, en fait, d'être attaqués eux-mêmes. Hein, il y a un blocus maritime mis en place par les Égyptiens, donc les Israéliens se sentent enfermés, piégés, et ils décident d'une guerre préventive. Et à l'issue de cette guerre préventive, en 6 jours donc, les Israéliens vont conquérir le plateau du Golan, au nord, contre les armées syriennes, au-dessus du lac de Tibériade, on va dire, nord-est d'Israël. Ils vont conquérir toute la Cisjordanie et tout Jérusalem-Est, hein, ces fameux 22% de territoire qui leur échappait, donc contre les armées jordaniennes. Ils vont conquérir la bande de Gaza, au sud-ouest, 1% du territoire. Et puis ils vont même conquérir tout le désert du Sinaï, tout le désert du Sinaï égyptien jusqu'au canal de Suez. Alors il y a une partie de ces territoires qui vont être évacués, en particulier le Sinaï égyptien, mais la bande de Gaza, la Cisjordanie et le Golan, en fait, ne seront jamais évacués. Voilà, c'était le troisième chapitre, le troisième acte, hein, ces guerres conventionnelles entre États. Mais on va voir que l'échec, à nouveau, l'échec de 48-49, l'échec de 1956, l'échec de 1967, des armées arabes, va faire que les Palestiniens vont prendre conscience en fait de quelque chose. Et 1967, c'est un tournant, c'est un nouveau tournant dans le conflit, quoi. Voilà, donc je vous laisse reprendre la parole.
Eh bien, parce que c'est un tournant, c'est le moment où on va faire la pause musicale. Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter le groupe The Royals et le titre du morceau, c'est Lyongo. Eh bien, on va continuer et même peut-être finir notre entretien avec Vincent Lemire par rapport à donc, cette histoire du conflit israélo-palestinien qui se rejoue en accéléré. Et donc, on va aborder la partie vraiment, c'est plus le conflit israélo-arabe, mais le conflit israélo-palestinien. En tant que tel, et donc on va donc évoquer donc l'adversaire principal des Israéliens, qui sera l'Organisation de Libération de la Palestine, qui a été créée vers le milieu des années 60. Mais tout d'abord, avant d'évoquer donc cette histoire de conflit israélo-palestinien, donc qui va se développer, donc essentiellement, surtout à partir de l'occupation des territoires de la Cisjordanie et de Gaza en 1967, avec donc des actions armées de la part de l'OLP. Mais quand même, revenir sur un épisode qui était très important, qu'on n'a pas évoqué et qui est quand même primordial, c'est en 1948, il y a eu l'exil des Palestiniens, qu'on appelle donc la Nakba. La Nakba, ça veut dire catastrophe en arabe. Et donc, c'est au moment de la guerre de 1948. Il faut dire que les armées israéliennes, elles avaient fait partir plusieurs centaines de milliers de personnes de Palestiniens, hein, en gros, hein, aussi pour récupérer des terres et du territoire. Mais bon, c'était aussi c'était très, très important dans cette guerre. Et donc, ça va être l'histoire de ces réfugiés palestiniens, hein, qui... Il y aura même une structure de l'ONU pour eux qui va s'appeler l'UNRWA, qui sera même créée dès 1948. En l'UNRWA, on en parle pendant le conflit à Gaza, tellement c'est aussi assez important cette histoire-là. Mais bon, faut quand même aussi l'évoquer. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est que par rapport à ces conquêtes donc en 1967 de Cisjordanie et Gaza, l'État israélien s'était refusé à définir ses frontières. Du coup, ça fait que le dossier il est ouvert, et donc c'est le dossier de des territoires palestiniens, des réfugiés de 48 de la Nakba. Tout ça, c'est ouvert, c'est une question qui est ouverte. Et c'est peut-être aussi une question pourquoi l'OLP va tant s'appuyer sur le droit international que sur l'action armée. Mais ça, vous allez peut-être nous en parler en développant donc la partie du conflit israélo-palestinien. Pendant que ça sera en tout cas l'OLP le grand interlocuteur, au moins jusqu'aux accords d'Oslo de 1993.
Oui, vous avez raison en fait, de revenir sur cet épisode de 1948. Hein. La Nakba palestinienne, c'est 750 000 Palestiniens qui sont expulsés dans les, en dehors du territoire palestinien. Ça encore, vous voyez, ça permet de recaler un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le... dans ces référents historiques, parce qu'on parle aujourd'hui de 2,3 millions de Palestiniens de la bande de Gaza qui sont menacés d'expulsion. Donc vous voyez, quand on parle d'un risque de deuxième Nakba, bon, bah, le terme n'est pas exagéré. Hein. Celle de 1948, c'est 750 000 personnes, et là on parle de trois fois plus en fait. Et effectivement, ce sont ces réfugiés qui vont former la colonne vertébrale de la nouvelle organisation de libération de la Palestine. Donc c'est ce qu'on appelait la palestinisation du conflit. Hein. On passe du conflit israélo-arabe au conflit israélo-palestinien. L'OLP est fondée en 1964 à Jérusalem. Alors l'OLP, en fait, c'est comme une fédération, en fait. Hein. C'est un rassemblement de plusieurs partis politiques et de plusieurs groupements militaires et de groupements armés. C'est une organisation. Elle va effectivement organiser des premières actions armées dès la fin de la guerre des Six Jours, dès 1968, avec y compris des attentats contre des civils israéliens à Jérusalem, dès 1968. Mais en même temps, le chapitre précédent se poursuit un petit peu, c'est-à-dire que ces guerres conventionnelles entre États, elles se poursuivent. En 1973, la guerre de Kippour, puis on pourrait dire d'une certaine manière la guerre du Liban, 1982, hein, l'incursion... la longue incursion israélienne au Liban jusqu'à Beyrouth en 1982, c'est un peu le dernier épisode en fait de ces guerres interétatiques qui sont de moins en moins conventionnelles, hein, parce que c'est à cette occasion-là que a lieu les massacres de Sabra et Shatila, hein, des camps de réfugiés de Sabra et Shatila, par des phalanges chrétiennes libanaises sous couvert de l'armée israélienne. Mais en fait, c'est ces années 1980 qui font basculer définitivement le conflit israélo-arabe vers le conflit israélo-palestinien à l'occasion d'un événement fondateur qui s'appelle la première intifada, vu d'un point de vue occidental, celle qui est déclenchée en 1987, qui dure 5 ans jusqu'au début des processus de négociation. Alors, ce quatrième chapitre hein, de la tragédie israélo-palestinienne, on pourrait l'appeler, effectivement, c'est un chapitre d'alternance d'intifada et de négociations et de processus de paix. On a souvent tendance à distinguer les deux, enfin à dire, voilà, les intifadas, c'est le contraire des négociations. Bah, en fait, c'est la même séquence. Hein. C'est le moment où les Palestiniens, en fait, se soulèvent pour modifier le rapport de force et pouvoir entamer des négociations plus favorables pour eux. 1987-1988, c'est un tournant extrêmement important parce que c'est le moment où l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, reconnaissent formellement l'État d'Israël comme un partenaire légitime et crédible. Donc, on abandonne en fait le mot d'ordre d'une seule Palestine souveraine de la mer au Jourdain et on accepte de ne se battre que pour les 22-23% restants de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. C'est un moment très très important. Et 1988, c'est la proclamation de l'État palestinien dans les frontières de 67 par Yasser Arafat à Alger. Et ce n'est pas une coïncidence, évidemment. Au même moment, 1987, un parti politique est fondé, un nouveau parti politique qui s'appelle le Hamas, fondé par une branche des Frères musulmans, à Gaza précisément, et ce parti politique islamiste hein, par ailleurs, lui revendique évidemment de se battre pour une Palestine souveraine de la mer au Jourdain, donc sur toute la Palestine. Donc vous voyez, il y a comme un espèce un jeu de chassé-croisé comme ça entre l'OLP qui accepte de rentrer dans le jeu des négociations, qui accepte de reconnaître l'État d'Israël dans les frontières de 67, qui accepte de se battre seulement pour 22% du territoire, et puis le Hamas au contraire, qui reprend en fait la position intransigeante qui était celle de l'OLP auparavant. Donc, le processus d'Oslo dans les années 1990, l'échec du processus d'Oslo, la deuxième intifada, 2000-2005. Alors là encore, hein, ça peut être utile pour les auditeurs d'avoir quelques chiffres en tête. Hein. Ils se souviennent sans doute pour certains de la première intifada, ils se souviennent de ces enfants qui lancent des cailloux sur des chars, ils se souviennent de tirs à balles réelles de soldats israéliens contre des femmes ou des enfants. Mais la première intifada, elle dure 5 ans, 1987-1992, et elle fait 1000 morts palestiniens. 1000 morts palestiniens en 5 ans. Donc 5 ans, ça fait 60 mois. Alors qu'en 6 mois de guerre à Gaza, on a eu plus de 30 000 morts. Vous voyez, c'est absolument... On a 30 fois plus de morts en 10 fois moins de temps. La deuxième intifada, 2000-2005, elle est plus meurtrière parce que les factions palestiniennes font le choix en fait, vraiment de la lutte armée. Hein, c'est ce qu'on appelle la militarisation de l'intifada. Elle est en particulier un combattant qui s'appelle Barghouti, qui est aujourd'hui dans les prisons israéliennes. Alors la deuxième intifada, c'est de 5 ans aussi, 2000-2005, c'est 3000 morts palestiniens. Hein, 3000 morts palestiniens en 5 ans. Cette deuxième intifada, en fait, elle va déboucher sur une bascule au niveau palestinien et au niveau israélien, d'ailleurs, des deux côtés. Et on entre finalement dans le cinquième et dernier acte de cette tragédie. En 2006, ont lieu des élections législatives en Palestine et elles sont gagnées par le Hamas. Elles sont gagnées à la loyale. Il n'y a pas de fraude électorale. Hein. Il y a énormément d'observateurs internationaux qui constatent que le Hamas a gagné. Il a si bien gagné que Ismaël Haniyeh, qui est toujours le dirigeant du Hamas actuel, hein, Ismaël Haniyeh est nommé Premier ministre par Mahmoud Abbas, par le président de l'autorité palestinienne. Oui, il est nommé Premier ministre parce qu'il a la majorité parlementaire. C'est comme une espèce de régime de cohabitation qui se met en place. Et puis, l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas et la communauté internationale, en fait, font le choix de ne pas laisser gouverner le Hamas. Ça fait penser un petit peu à la situation, à ce qui s'est passé en Algérie, c'est-à-dire que finalement, le résultat des élections n'est pas reconnu par la communauté internationale, qui fait le choix de placer le Hamas, à la fois la branche militaire du Hamas, mais aussi sa branche politique, sur la liste des organisations terroristes, donc on va dire des entités avec lesquelles on ne peut pas discuter officiellement. Les diplomates n'ont pas le droit de rencontrer des gens du Hamas. Donc un choix inverse de ce qui avait été fait pour le Hezbollah. Et donc en 2006... une guerre civile palestinienne en fait qui a lieu et le Hamas évince l'autorité palestinienne de Gaza. Le Hamas prend le pouvoir à Gaza 2007 et ça nous amène en fait à la situation actuelle. Voilà où on en est. On a aujourd'hui une autorité palestinienne qui est exsangue, qui finalement n'est souveraine que sur quelques petits confettis en Cisjordanie, ce qu'on appelle les zones A, hein, autour de Naplouse, de Ramallah, de Bethléem, de Jéricho en particulier, et Gaza, la bande de Gaza, avec l'autorité de fait, hein, qui est celle du Hamas depuis 2007, hein, donc ça fait plus de 15 ans. Gaza, c'est 35 à 40% de la population palestinienne actuelle, hein, c'est ça que peut-être les gens qui nous écoutent doivent comprendre, hein, c'est 1% du territoire de la Palestine mandataire, celle dont on parle depuis le début de cet entretien, 1% du territoire et 40% de la population palestinienne. C'est énorme. Et puis, les habitants de Gaza, il faut aussi souligner que pour 80% d'entre eux, ils sont soit des réfugiés, soit des descendants directs de réfugiés palestiniens. Donc, d'une certaine manière, on ne doit pas parler de Gazaouis quand on parle des habitants de Gaza. Ce sont les Palestiniens de Gaza. Ce sont les Palestiniens qui vivent à Gaza. Et voilà, c'est ce moment-là, c'est le moment en fait où le Hamas prend le leadership. Et alors, il n'y a plus d'élections en Palestine depuis assez longtemps, mais les dernières élections, les élections qui ont encore lieu, c'est les élections étudiantes dans les universités en Cisjordanie, et puis les élections municipales. Et on constate à chaque fois que le Hamas en fait améliore ses scores, hein, accentue son emprise politique sur les populations palestiniennes. Donc c'est ce Hamas renforcé qui hésite, hein, entre une stratégie de normalisation, de dédiabolisation, pourrait-on dire. En 2017, la branche politique du Hamas publie un nouveau texte, une nouvelle charte, qui n'est pas vraiment une nouvelle charte, mais on va dire un texte structurant, qui pourrait faire penser à une reconnaissance de facto de l'État d'Israël, en tout cas qui considère que le combat prioritaire, ça doit être de se battre à l'intérieur des frontières de 67. Donc vous voyez, c'est un peu comme si en 2017, le Hamas avait fait un petit peu le même chemin hein, en 30 ans que l'OLP avait fait entre 1964 et 1988. Mais en même temps, la branche militaire du Hamas, en particulier Mohamed Deif et Yahya Sinwar à Gaza, n'accepte pas cette stratégie de normalisation de la branche politique. C'est sans doute ce qui a amené à la décision d'organiser les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Donc, vous voyez, ce long historique, quand même, il permet d'être beaucoup plus clairvoyant, de comprendre mieux, en fait, la situation actuelle.
Oui, je vais me permettre quand même quelque chose. Hein. Vous avez dit que l'OLP l'avait accepté les accords, la reconnaissance d'Israël. L'OLP, le Fatah l'avait accepté, mais l'OLP, c'était plusieurs organisations et c'était un peu beaucoup, presque tous contre, et c'était même mis d'accord avec le Hamas contre cette reconnaissance d'Israël. C'est même ce qu'on a pu voir avec ces actions-là qu'a lancé le Hamas contre. Du 7 octobre, il y avait même le FPLP qui aurait participé, donc qui faisait aussi partie de l'OLP. Donc, c'est quand même des petites nuances à apporter à tout ça. Et il semble donc que la reconnaissance d'Israël depuis l'OLP, ça soit mise en débat depuis les années 80, suite à un moment qui s'est quand même passé. C'était l'offensive israélienne paix en Galilée pour détruire l'OLP qui était basé au Liban c'est le moment où l'OLP combattante qui était au Liban, qui était d'Israël, a dû être expulsée et qui est partie en Tunisie, donc ils ne pouvaient plus être près de leur terre palestinienne. Donc c'était un peu un moment de défaite un peu de l'OLP. C'est l'intifada des jeunes des territoires qui étaient pas des vieux de la vieille de combattants de l'OLP, c'est eux qui ont relancé un peu la machine de la lutte. Et voilà, donc c'est quand même des petites choses à remettre en perspective. Et oui, par rapport à ce compte du Hamas, donc il y avait plusieurs tendances, mais il semble qu'il y a eu un coup de force de quelqu'un qui s'appelle Yahya Sinwar, hein, c'est lui qui a pris le pouvoir, et que qu'il a décidé apparemment, d'après ce qu'on en sait, de qu'il n'y ait plus de débat interne au sein du Hamas, et que ça soit très très monolithique, et qu'ils prennent vraiment les décisions pour avoir donc l'option militaire, parce que l'OLP était en perte de vitesse, et pour prendre de vitesse ses concurrents, qui sont le djihad islamique ou d'autres, c'était lui de par rapport à l'agenda stratégique contre Israël, d'avoir une position très offensive, militaire, armée, pour être l'interlocuteur en force par rapport à ses autres par rapport à ses concurrents palestiniens. C'est ce qui semble s'être aussi à l'origine de cette action-là du 7 octobre. Donc, pour remettre un peu en perspective par rapport à l'histoire inter-palestinienne aussi.
Oui, vous avez raison hein, d'évoquer le FPLP hein, et de rappeler qu'il n'y avait pas forcément consensus. Alors, le FPLP n'était pas majoritaire hein, au sein de l'OLP. Hein. Le parti majoritaire au sein de l'OLP, hein, depuis toujours, en fait, c'est le parti de Yasser Arafat, c'est le Fatah. Et c'est le Fatah hein, qui avait fait le choix, après une longue discussion, hein, le choix de finalement reconnaître l'État d'Israël en 1988. Mais effectivement, il y a eu au sein de l'OLP, y compris des dissensions. Mais peut-être pour terminer là-dessus, ça permet de se dire aussi que, pour voir un petit peu de perspective, on sait que la branche politique du Hamas, aujourd'hui, a publiquement proposé en fait, de rejoindre l'OLP. Alors ça peut paraître un peu bizarre pour les gens qui nous écoutent, parce qu'ils savent que le Fatah et le Hamas sont, on va dire, des adversaires idéologiques. Mais en même temps, l'OLP, vous l'avez bien dit, C'est une galaxie de partis qui ne sont pas forcément d'accord sur tout. L'OLP a vocation en fait à représenter l'ensemble des factions palestiniennes. Et d'un point de vue juste organisationnel, il ne serait pas illogique que le Hamas, ou en tout cas la branche politique du Hamas, rejoigne l'OLP dans les mois qui viennent pour peut-être relancer un processus politique. En tout cas, c'est une des options qui est sur la table. Et là, encore une fois, on voit bien que la perspective historique, hein, celle qu'on a essayé de mettre en lumière à travers ce livre Anatomie d'un conflit, puis celle aussi que j'essaye de défendre avec la bande dessinée Histoire de Jérusalem, on voit bien que cette perspective historique, c'est pas seulement pour être, pour être plus cultivé et pour avoir de la conversation, hein, c'est pas ça le sujet, mais elle nous permet vraiment de beaucoup mieux comprendre l'actualité et les nouvelles tragiques, hein, qu'on entend tous les jours dans les médias.
Oui, voilà. Donc, il est bon pour savoir que le conflit, malheureusement, il n'est pas fini parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à le mener. Alors, bon, moi, je serai un peu dubitatif sur la volonté des deux acteurs que sont, en tout cas, le Hamas de Gaza militaire et le gouvernement israélien d'extrême droite à arriver à une solution pacifique, mais plutôt à faire durer le conflit parce que ça les arrange tous les deux. C'est un peu le cadet de leurs soucis qu'il y ait des centaines de milliers de morts. Voilà, c'est pas ça qui les dérange le plus, hein. Ce qui les dérange le plus, c'est d'avoir le pouvoir et de conserver le pouvoir. Mais donc, ce qui était intéressant, c'était par rapport à comment cesser ce conflit. Et vous aviez un peu mis des perspectives qu'une solution, ça pourrait être de disjoindre l'État et le territoire. Juste un peu quelques mots en conclusion par rapport à l'auditeur. Qu'est-ce que c'était un peu cette idée-là? À quoi ça correspond?
C'est aussi pour ça que c'est utile, hein, de rappeler que l'ONU avait proposé cette solution d'un État binational dès 1947 ou d'une partition. Voilà, c'est de constater que face à ce conflit qui est effectivement qui a l'air insoluble, il faut faire preuve de peut-être d'imagination, d'une certaine manière de créativité. Alors un État palestinien, c'est très important parce que un État c'est une entité qui protège, qui représente et qui encadre sa propre population. Et vous voyez, les Palestiniens, que ce soit de Gaza ou de Cisjordanie, et de diaspora d'ailleurs également, manquent cruellement en fait d'un État. C'est-à-dire, ils ont besoin d'être protégés, ils ont besoin d'être représentés, et ils ont besoin d'être encadrés. Donc il est important aujourd'hui qu'il y ait un État palestinien. C'est vraiment un horizon prioritaire. Pour autant, on sait qu'il y a pratiquement aujourd'hui 800 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. C'est des chiffres vertigineux, mais... Et on sait combien il a été difficile pour l'armée israélienne et pour la police israélienne de faire sortir les 8 000 colons qui étaient installés dans la bande de Gaza en 2005. 8 000 colons, 100 fois moins. Il a fallu à peu près 24 000... policiers et militaires israéliens pour sortir les 8 000 colons. Hein, 3 pour 1. Est-ce qu'on imagine combien il en faudrait pour les 800 000 colons actuels? Et puis, il y a aussi 20% de la population israélienne qui est palestinienne. Hein, on le sait. Hein. Il y a un cinquième des citoyens israéliens sont palestiniens, sont arabophones, sont d'origine palestinienne. Alors, s'il y a deux États, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester en Israël, ils vont aller en Palestine, ils vont quitter la maison qu'ils ont construite à Haïfa ou à Ramleh. Alors, une des solutions qui pourrait être esquissée, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est aussi des militants palestiniens, des militants israéliens, c'est effectivement de disjoindre, d'une certaine manière, on pourrait dire la carte et le territoire, ou plutôt la carte d'identité et le territoire. C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, le modèle européen aussi, le schéma européen peut être une inspiration, c'est-à-dire que vous pouvez être un citoyen français et vivre à Berlin, et voter aux élections locales à Berlin, mais aux élections nationales en France, bah vous pourriez être un citoyen palestinien, vivre en Israël, participer à la vie politique locale dans votre communauté locale, et voter aux élections nationales en Palestine, et à l'inverse, vous pourriez être un Israélien sur le territoire palestinien de la même manière, voilà, disjoindre les questions éducatives, les questions fiscales, etc. Alors, ça paraît une solution un peu utopique aujourd'hui, hein. C'est littéralement une solution utopique, parce qu'on n'est absolument pas dans un contexte qui permet d'envisager la mise en place pratique de ce genre de solution. Mais voilà, c'est peut-être juste pour terminer cet entretien, pour dire l'histoire aussi du conflit, elle nous enseigne ça, elle nous enseigne que y a des contradictions tellement fortes dans cette tragédie qu'il faut imaginer des solutions un peu créatives, un peu innovantes. Effectivement, sortir peut-être de cette fausse alternative binaire entre deux États, un État. Il faut deux États. Les Palestiniens ont besoin d'être représentés, d'être protégés, d'être encadrés aussi par un État qui soit leur État, qui soit leur État souverain. Aujourd'hui, entre la mer Méditerranée et le Jourdain, sur tout le territoire dont on parle depuis le début de cet entretien, bah, il y a à peu près 7 millions de Palestiniens et 7 millions de Juifs israéliens. 50-50. Il y a vraiment parité. Donc, il n'y a pas d'autre choix, en fait, hein, que de partager ce territoire. Et voilà, il peut y avoir cette disjonction de la carte d'identité et du territoire pourrait être une des pistes. Mais ça, ce sera une fois que la guerre en cours sera terminée.
Oui, et que les traumatismes mettront du temps à cicatriser. Eh ben, on vous
Bien sûr.
remercie pour cet entretien. On vous souhaite une bonne continuation.
Merci à vous, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les premiers et troisièmes mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.